Bienvenue sur Follow the Bible Ministries. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques versets de la Bible, confiant qu'ils affermiront votre foi en Dieu et en sa sainte parole. Et maintenant, passons à notre étude.
Bienvenue à notre cours biblique. Voici la troisième partie de notre série sur l'Évangile selon Marc. Dans notre étude de Marc, chapitre 1, nous découvrons la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fut envoyé avant Seigneur Jésus et exerça plusieurs fonctions. L'une d'elles était d'annoncer la venue du Messie, celui qui enlèverait les péchés, le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la prophétie du livre des Malachies, les derniers livres de l'Ancien Testament. Nous lisons dans un chapitre 3 et au verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance, en qui vous vous réjouissez. Voici, il viendra, dit l'Éternel des armées. » Ces versets, ainsi que d'autres, prophétise la venue du messager pour annoncer la venue du Sauveur. Et cela est accompli lorsque Jean-Baptiste est venu prêcher, comme nous l'apprenons dans Marc chapitre 1. Jean avait également pour mission d'enseigner les vérités bibliques et de corriger certaines idées faussées du peuple. Cela avait préparé les peuples à la venue du Sauveur qui leur enseignerait de nouvelles vérités. Cette prophétie avait été donnée dans le livre d'Isaïe environ 700 ans auparavant. Nous lisons dans Isaïe chapitre 40 et versets 3 à 5. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les déserts une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le lieu tortueux soit redressé et le lieu rabouté aplani. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair la verra ensemble, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ces deux prophéties sont citées dans Marc chapitre 1 par lesquelles Dieu enseigne que le Nouveau Testament accomplit les promesses faites dans l'Ancien Testament. Lors de notre dernier cours, nous avons commencé à parler du message que Jean-Baptiste a prêché au peuple. En étudiant sa prophétie, nous verrons l'accomplissement des prophéties concernant Jean, donné par Dieu des centaines d'années auparavant. Nous lisons dans Marc chapitre 1, verset 7, un extrait du message prêché par Jean. Nous lisons que Jean a dit, « Est-il prêché, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Voici un extrait des sermons de Jean-Baptiste. En réalité, Dieu nous a donné un résumé d'une partie des sermons de Jean. Jean dit qu'il y a quelqu'un de plus puissant que celui qui vient. C'est l'accomplissement de la prophétie selon laquelle Jean annoncerait la venue du Sauveur. Le Seigneur Jésus est plus puissant que Jean, car il est le Dieu tout-puissant. Et Jean était un homme comme vous et moi. Jean déclare qu'il n'est pas digne de délier la courroie de la sandale de Jésus. Et je crois que nous l'avons compris, figure de style dans notre société que nous utilisons pour signifier que quelqu'un a bien inférieur à un autre. Nous comprenons que Jean indique combien le Seigneur Jésus est plus grand que lui-même. Plus tard, dans notre cours, nous reviendrons sur cette expression que Jean utilise sous l'inspiration de Dieu, le Saint-Esprit, pour en apprendre plus de vérité à ce sujet. À présent, voyons ce que Dieu a dit au peuple au verset suivant. Le verset 8, où nous lisons une autre déclaration des gens. Et ces vérités ou sujets sont les vérités importantes que Dieu veut que nous connaissions. Nous lisons dans Marc chapitre 1 et verset 8. Jean dit, « Moi, je vous ai baptisé de l'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Le terme Saint-Esprit est un ancien mot anglais, signifie « Esprit Saint » et désigne Dieu lui-même. Nous avons abordé cette affirmation lors de notre cours précédent et c'est une affirmation très importante. Nous avons lu précédemment comme Jean baptisait le peuple dans l'eau. Lorsque nous lisons à propos du baptême d'eau, nous pensons que c'est quelque chose que nous pouvons faire pour être sauvés. Il est très facile pour nous de chercher quelque chose à faire pour contribuer à notre salut. Mais la Bible dit que le salut ne s'obtient pas par les œuvres que nous accomplissions. Nous lisons cela à de nombreuses parties dans la Bible. Examinons deux versets maintenant. Nous lisons dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, verset 9, à propos du salut de Dieu. Nous avons lu 1 Timothée 1, 9. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés par un saint appel, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les commencements du monde. Nous lisons clairement que Dieu nous sauve, non à cause de nos œuvres. Le salut était donc entièrement immérité. Nous lisons cette même vérité dans l'Épître aux Galates au chapitre 2, verset 16. Nous lisons « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. » C'est par les œuvres de la loi, nul ne sera justifié. Le salut s'est fait par la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a eu confiance dans le plan de Dieu. Et parce qu'il a eu confiance et a accompli tout ce que Dieu a commandé, alors nous pouvons être sauvés. L'essentiel que le Seigneur Jésus a dû faire était de payer pour les péchés de tous ceux qui viendraient, c'est faire confiance en lui. Ce verset dans l'Épître des Galates, chapitre 2, nous dit que le salut est avant tout par les œuvres de la loi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être sauvés par nos actes d'obéissance à la loi. Car si nous voulons être justifiés en obéissant à la loi de Dieu, alors pour le faire parfaitement, car tout péché exige le paiement d'être justifié pour l'éternité. C'est pourquoi le baptême d'eau ni aucune autre œuvre ne peut nous sauver. Cette vérité est confirmée par les déclarations de Jean dans Marc chapitre 1 verset 8. Relisons ce passage. Jean-Baptiste dit, sous l'inspiration de Dieu, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. » Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ces versets soulignent également la vérité suivante. Nos œuvres ne peuvent contribuer à notre salut. Jean dit qu'il a baptisé dans l'eau, mais que notre baptême est à venir. Ce baptême est administré par le Seigneur Jésus qui est Dieu. Dieu, le Seigneur Jésus, nous baptise du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Dieu nous délivre de la culpabilité de nos péchés. Le baptême d'eau n'était qu'un signe et un outil pédagogique. Mais lorsque Dieu nous sauve, il nous baptise, il lave nos péchés par Dieu lui-même. Ainsi Jean-Baptiste a prêché ces deux messages importants. Premièrement, il a prêché la venue d'un homme plus puissant, le Sauveur, le Seigneur Jésus, qui enlèverait nos péchés. Ce sont là les seuls passages de la prédication de Jean que Dieu nous donne dans l'Évangile selon Marc. Mais nous pouvons examiner les trois autres évangiles pour apprendre davantage sur ce que Jean dit. Nous allons en apprendre davantage sur ce que Jean-Baptiste a prêché dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, à partir du verset 7. J'en dis au peuple. Alors, il dit à la foule qui venait se faire baptiser par lui, « Race de vapeurs, qui vous a averti de fuir la colère à venir, produisez donc de fuir de la repentance, et ne commencez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous l'ai dit, Dieu peut de ses pierres susciter des enfants Abraham. » Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le peuple l'interroge, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des publicains vinrent aussi se faire baptiser et lui dire, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous êtes prescrit. » Les soldats lui demanderaient également, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Voici un autre aspect du message que Jean prêchait au peuple, sous l'inspiration divine. Jean adresse un avertissement solennel au peuple. Dieu, par la bouche des gens, qualifie ceux qui viennent à lui des générations de vipères. Une vipère est un serpent. Ce langage est négatif. Mais c'est parce que Dieu est très saint et que le péché est une grande offense à ses yeux. Ce langage souligne également la nécessité de la repentance. C'est pourquoi au verset 8, Jean dit qu'il devait produire des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire cesser de désobéir à la Bible et commencer à suivre ses préceptes, la loi de Dieu. Jean avertit les peuples de ne pas se fier à l'idée qu'Abraham était leur père. Leur sang avec Abraham ne pouvait pas les sauver. Le peuple demanda à Jean ce qu'il devait faire. Et Jean leur donnait des exemples de se décourager du péché et d'obéir à la loi de Dieu. Par exemple, le public ou les collecteurs d'impôts ne devraient pas prévaler l'impôt que la loi les prévoyant. Les soldats ne devraient faire de mal à personne et se tenir à leur solde. Ces actions soient liées à la repentance, aux renonciations au péché et à l'obéissance de Dieu. De plus, la prédication de Jean a contribué à accomplir la prophétie d'Isaïe chapitre 40 qui annonce que les chemins tortillés seraient redressés et les montagnes abaissées, acte. Ainsi les chemins vers Dieu seraient éclaircis. Comme Jean enseignait la vérité biblique au peuple, les chemins de Dieu seraient dégagés et les peuples seraient préparés à la venue du Messie. Nous avons maintenant une vue d'ensemble de la prédication de Jean-Baptiste et nous voyons comment elle a accompli la prophétie de sa venue. Revenons à Marc chapitre 1 verset 7 et examinons ces passages. L'engagement concernant la chaussure, la bouche. Nous lisons au verset 7 concernant Jean. Et il prêcha, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Comme mentionné précédent, la référence de la dignité de perdre la bouche de sa chaussure soulignait l'humilité de Jean se considérer face au Sauveur à venir. Et c'est une bonne position, une position d'humilité. Et c'est un enseignement que nous tirons de ce langage. Je pense que nous pouvons en apprendre davantage en nous rappelant que la Bible est écrite dans un langage parabolique. Une parabole, une histoire terrestre, porteuse d'un message évangélique ou d'une vérité céleste. En résumé, Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas digne que la chaussure du Seigneur Jésus lui soit retirée. Autrement dit, le Seigneur Jésus retirait sa chaussure et marchait pieds nus. Pour comprendre l'enseignement de l'Évangile sur la nudité, nous nous référons à l'épisode où Moïse s'adressait à Dieu devant les buissons ardents. C'est à ce moment que Dieu appela Moïse à conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Nous lisons ces récits dans les livres de l'Exode au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son bon père, paître des mendiants. Il mena les troupeaux au-delà du désert et parvenit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient embrassés, mais ils ne se consumaient pas. Moïse dit, « Je vais m'approcher pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi les buissons ne se consumaient-ils pas ?» L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Mais voici, Dieu dit, « N'approche pas ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha les visages, car il craignait de regarder Dieu. Il y a un buisson ardent, pourtant il n'est pas entièrement consumé. Moïse trouve cela intéressant et s'approche pour bien voir. Alors Dieu appelle Moïse et dit, « Oh, du buisson ardent !» Et Dieu lui dit qu'il se trouve sur une terre sainte. C'est parce que Dieu est là et Dieu est saint. Puisque ce lieu est saint, Dieu dit à Moïse d'enlever ses sandales. Cela rappelle la déclaration de Jean-Baptiste concernant le fait d'enlever les sandales du Seigneur Jésus. Nous trouvons ici un éclairage supplémentaire sur la signification d'être pieds nus ou se faire enlever ses sandales dans les livres d'Isaïe. Dans le chapitre 20 d'Isaïe, nous lisons que Dieu ordonne au prophète Isaïe de parcourir le monde nu et pieds nus pendant 3 ans. Quelle épreuve embarrassante pour Isaïe! Mais Dieu pouvait parfois être exigeant envers ses prophètes. Le but de cette marche d'Isaïe, pieds nus et nus, était de symboliser la nudité de deux nations devant Dieu plongées dans les péchés. Nous lisons dans le chapitre 20 d'Isaïe à partir du verset 1. L'année où Tartan arriva à Asdod, lorsque Sargon, roi d'Assyrie, l'envoya, il combattit Asdod et s'empara de la ville. Au même moment, l'Éternel parla par Isaïe, fils d'Amos, et dit, « Va, ôte les sacs des terrains et retire tes sandales de tes pieds. » Il obéit, marchant nu et pieds nus. L'Éternel dit, « De même que mon serviteur Isaïe a marché nu et pieds nus pendant 3 ans. » Un signe et prodige pour l'Égypte et l'Éthiopie. Ainsi, le roi d'Assyrie amènera les prisonniers égyptiens et les captifs éthiopiens, jeunes et vieux, nus et pieds nus, les fesses découvertes à la honte de l'Égypte. Ils auront peur et honte de l'Éthiopie, leur espérance, et de l'Égypte, leur gloire. Ce passage est difficile à comprendre. Parfois, Dieu écrit des passages complexes. Cela nous aide à rester humbles et à prier pour comprendre et à reconnaître que Dieu est Dieu et à être reconnaissant pour toute vérité que nous pouvons comprendre de la Bible. Nous pouvons y voir quelque chose. Nous remarquons que Dieu assimile la nudité au fait d'avoir les pieds nus en un sens. Avoir les pieds nus, c'est avoir les pieds nus. Nous trouvons une aide supplémentaire dans ces passages d'Isaïe, chapitre 20. Dieu parle de ces nations dont la honte est exposée Et cela a un lien avec la honte, leur péché était dévoilé devant Dieu. C'est semblable à l'époque d'Adam et Ève qui se cachaient de Dieu car ils étaient nus. Leur péché et la honte qui en suivait ont été dévoilés devant Dieu. Dans une autre cour, nous avons examiné l'Épître aux Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Et comme ces versets décrivent que nos œuvres et notre nature même sont nues devant Dieu, nous avons lu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ces passages soulignent combien Dieu nous voit et nous connaît parfaitement. Par conséquent, il est utile de se cacher de Dieu. Nous sommes totalement vulnérables à son regard. C'est pourquoi le mieux est de reconnaître et de se confesser nos péchés devant Dieu, car il les connaît déjà tout, et de lui demander pardon et son aide pour ne plus pécher. Mais revenons à cette notion de vulnérabilité, essayons de relier ces versets. Dans l'Épître des Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13, Dieu souligne que nous sommes vulnérables, ainsi que toutes choses ou exposées ou connues de Dieu. Dans Isaïe, chapitre 20, pieds nus étaient identifiés en nus, et cela correspond car pieds nus sont nus, correspond aussi dans Isaïe, chapitre 20, Dieu associer le deux pieds nus et nus à la honte du péché exposé. Et cela lie encore une fois les pieds nus et la nudité au péché qui est exposé devant Dieu avec sa honte. Et cela conforme à ce que nous lisons dans Exode chapitre 3 où Dieu dit à Moïse d'enlever ses chaussures pour être pieds nus en présence de Dieu dans le buisson ardent. Ainsi, le fait que Moïse soit pieds nus signifie qu'il était nu, exposé devant un Dieu saint. Et cela ne pose pas problème à Moïse, car il avait un sauveur pour expier tous ses péchés. Et ce sauveur est le Seigneur Jésus. C'est un peu complexe, mais appliquons ces idées à Marc chapitre 1, verset 7. Jean-Baptiste parle du Seigneur Jésus et dit, il prêchait, « Après moi, il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne d'enlever les courroies de ses sandales. » Ici, Jean-Baptiste dit, sous l'inspiration divine, qu'il n'est pas digne de chausser le Seigneur Jésus, ou encore qu'il n'est pas digne que le Seigneur Jésus ait eu les pieds nus pour l'amour de Jean. Dans les versets précédents, nous avons appris que pieds nus et nudité sont liés à l'exposition devant Dieu. Le Seigneur Jésus a-t-il jamais été exposé devant Dieu? Oui, le Seigneur Jésus a dû être révélé avant Dieu afin d'être le sauveur de son peuple. Afin d'être le sauveur de son peuple, le Seigneur Jésus a dû porter leurs péchés et en payer le prix, l'équivalent d'une éternité et enfer. L'un des plus beaux passages qui en parle a été écrit environ 700 ans, avant que le Seigneur Jésus ne vienne accomplir ses sacrifices. On les trouve dans les livres d'Isaïe au chapitre 53. Nous allons lire à partir du verset 1. « Qui a croyé à notre annonce ? À qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Car il a grandi devant lui comme une jeune épouse, comme une racine qui sort d'une terre aride. Il n'a ni beauté ni éclat, et quand nous le voyons, il n'y a rien en lui qui puisse nous attirer. Méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous détournions de lui nos visages. Il était méprisé et nous ne l'estimions pas. Ceci parle du Seigneur Jésus. Bien que le Seigneur Jésus soit Dieu éternel, il est venu sur terre en tant qu'homme, dans une humble demeure. Et comme nous venons de le lire, il a été rejeté par les hommes. Et son apparence n'avait rien de particulier qui puisse susciter les désirs. Nous venons de le lire qu'il était un homme de douleur. Il a dû subir le paiement des péchés, ce qui était très douloureux. Continuons notre lecture à partir de ces passages, en reprenant au verset 4. Certes, il a porté nos souffrances, il est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme frappé, comme châtié de Dieu et affligé. Mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous voyons dans ces versets comment le Seigneur Jésus a payé les prix des péchés de son peuple. Il a pris leur place. C'est pourquoi il a été blessé pour nos transgressions. Ce sont les transgressions ou péchés des croyants qui ont poussé le Seigneur Jésus à souffrir pour les expier. Ce même enseignement se retrouve dans les phrases suivantes. Au verset 5, il a été meurtri pour nos iniquités, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris à la culpabilité de nos péchés devant un Dieu saint. Le paiement des péchés a été accompli par le Seigneur Jésus. Et ceci, cela s'applique à tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ, leur Sauveur. Nous lisons au verset suivant d'Isaïe 53 au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce verset est très important, car il révèle comment le Seigneur a pourvu au salut. Et verset 10.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Le temps imparti à notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous continuerons cette étude la prochaine fois.
Nous vous remercions de votre écoute. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission. Notre adresse est la suivante. Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Weimar, CA 95736, USA. Notre site web est followthebibleministries.com. Écrivez-nous par courriel à followthebibleministries@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.